mani a tappi, e camera fuori.
So, so, solidarité, avec les sans-papiers.
J'entends moi.
Ils ont mis des papas
oui.
Ou des mamans en prison.
So, so, solidarité, avec les sans-papiers.
RESF, réseau Éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.
Bonjour, on est mercredi, il est 18h et c'est l'heure du RESF sur RPP, fréquence Paris Pluriel, la radio locale et sans frontières, la voix des sans voix sur 106.3 en FM à Paris et banlieue et rfpp.net en streaming jusqu'à retrouver les oreilles loin du front, excellente émission dans une petite heure. Cette émission sera rediffusée lundi matin à 7h30 et très bientôt dispo en replay sur le site du RESF, réseau-resf.fr. Message FPP avant de commencer, pour rénover l'antenne, pour changer une console de studio vieillissante, assurer les nombreux frais incompréhensibles et faire face aux baisses de nos subventions de fonctionnement, nous faisons un appel à nos auditeurs. Un petit ou un grand don nous permettra de continuer à porter notre voix sur la FM quand on le fait depuis 33 ans, en tant à l'indépendance et sans la moindre publicité. Donc vous pouvez soit nous faire un don en ligne depuis la page d'accueil du site rfpp.net, soit nous envoyer un chèque libellé à Association Paris, P-A-R-I-S, pour programme associatif radiophonique d'intérêt social, et à l'adresser au FPP 1 rue de la Solidarité. Nous parlerons aujourd'hui de l'adoption, jeudi 26 mars, du règlement retour par le Parlement européen, par une collusion entre groupes de droite et d'extrême droite. Et on en parlera donc avec Brigitte Espuche, coordinatrice du réseau Migre-Europe, enregistrée hier mardi 31 par téléphone. Mais avant, nous écouterons la suite du reportage enregistré lors de la marche des solidarités le 14 mars à Paris avec les prises de parole des familles victimes des violences policières.
Mon fils unique, Adam, a vécu 20 ans. Il est là. Il a vécu 20 ans et il a croisé la route d'un policier énervé. À l'été 2022, il se trouvait avec Ryan, 26 ans, dans une voiture stationnée sur le parking d'un centre commercial à Vénissieux. Autour de minuit, une patrouille de police est passée par là. Soupçonnant que le véhicule est volé, ils font une recherche et en ont la confirmation. Mais l'affiche portant confirmation est accompagné d'une consigne. Cette consigne dit « La surveillance prime sur l'interpellation. La surveillance prime sur l'interpellation. » 3 minutes après, Adam meurt touché au thorax. Ryan décède quelques heures plus tard, touché à la tête. 11 balles sont tirées. Un seul et même policier en a tiré 8 comme étant un double homicide. 2 heures plus tard, l'enquête établit qu'aucune image de vidéosurveillance n'est exploitable. On en met une seule sous scellé et l'enquête conclut à de la légitime défense suite à un refus d'obtempérer. Merci Cazeneuve. Merci le Parti Socialiste. Les déclarations des policiers, donc, sont les seules qu'on est. Elles sont contradictoires, confuses, ne tiennent pas la route devant les éléments objectifs. Les questions posées ne sont pas les bonnes, les réponses non plus. L'enquête est une imposture. Aucun récit ne colle à la réalité. On est tantôt chez Kafka, tantôt chez Orwell. Or, l'histoire est simple. Je vais vous la raconter. Quelques heures auparavant, alors qu'il prenait son service avec son équipage, le policier, auteur des tirs mortels, apprend que sa moto, garée près de son domicile, au sud de Lyon, est en train d'être volée. Aussitôt, il emmène son équipage sur les lieux qui sont en dehors de son champ d'intervention réglementaire. On a déjà l'idée de se faire justice soi-même. Et au terme d'une course-poursuite dans des rues étroites, lui et ses coéquipiers réussissent à récupérer la moto. Mais les voleurs ont pris la fuite. Ils continuent à patrouiller sur les lieux pendant des heures parce qu'ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Mais les voleurs sont introuvables. On peut concevoir le sentiment de frustration qui conduit ce soir-là Monsieur D à intervenir en dépit de la consigne contraire, à viser la tête, à viser le thorax dans une intention manifestement homicide. C'est la réalité des faits. Et l'épisode de l'après-midi est occulté dans l'enquête comme si ça n'avait pas existé. Je voudrais d'ailleurs saluer un jeune juge d'instruction qui a été en charge de mon dossier trop brièvement, malheureusement. Et cela me pose beaucoup de questions sur les véritables motifs de ce message, de ce passage éclair. Il m'avait reçu, il m'avait assuré qu'il mettrait tout en œuvre pour la manifestation de la vérité. Je l'ai cru, j'ai cru à son intégrité. Je tiens à ce qu'il le sache. Comme tous mes camarades d'infortune, je me bats contre une institution omnipotente, un géant prêt à protéger ses agents coûte que coûte, au mépris des bases élémentaires d'une démocratie. Mais nous savons que 2 plus 2 feront toujours 4. Selon la loi de la physique, je ne suis qu'un fétu de paille. Pourtant, je ressens une grande force, une force qui vient du fait qu'on a arraché ma chair. Et cette souffrance fait que je n'ai plus peur de rien. Nous n'avons plus peur de rien. C'est notre force. Et la justice doit agir et se laver de toute honte.
Merci. Merci.
Bonjour tout le monde. Merci d'abord à tous et toutes d'être présents. Je vois du monde et ça fait plaisir. On doit marcher ensemble aujourd'hui. Je me présente, je suis Émilie, la belle-sœur de Yanis, 20 ans, tout comme Adam, assassiné après avoir rencontré la police. Lui, il était sur un scooter dans sa rue et des policiers qui s'ennuyaient parce que souvent, on tue par ennui dans la police. Une voiture de la BAC qui s'ennuyait a décidé de le pourchasser. De le pourchasser jusqu'à certainement lui faire du mal et le pousser à prendre en contresens une autoroute à quelques centaines de mètres de notre domicile. Malheureusement, les blessures ont été fatales et après 49 jours de coma, il nous a quittés. Ces 49 jours où nous étions complètement abasourdis nous ont permis de réfléchir à une chose, à nous organiser tous ensemble, Saint-Denis, avec lequel j'ai construit un collectif qui s'appelle Stop Violence Policière. Et j'invite toutes les villes de France et tous les villages de France à s'organiser ainsi pour lutter contre les violences d'État, contre les crimes d'État, contre la fascisation de nos mairies, contre l'impunité que cela implique. Car nous sommes tous concernés, nous, êtres humains, avec ou sans papier. Nous sommes leurs premières victimes et nous le resterons tant que nous ne ferons rien, tant que nous ne serons pas ensemble, main dans la main, poing levé, à lutter pour la vérité, pour la justice, pour le respect de nos droits et pour notre dignité. Alors pour l'humanité entière, marchons aujourd'hui ensemble, partout en France et partout dans le monde, et continuons à le faire tant que la police existera et tant que les crimes continueront d'exister.
Merci. La maman de Naël.
Bonjour à tous. Merci d'être là. Je tiens à vous préciser que je ne suis pas par rapport au procès, par rapport à la justice, à la décision de la justice, violence sans vouloir donner la mort, je ne suis pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'accepte pas cette décision-là. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de venir le 21 mars à Nanterre pour pouvoir faire une marche, entendre nos voix, entendre que cette décision n'est pas valable pour nous. Ils ont tué une deuxième fois mon fils. Ils me tuent une deuxième fois. Je ne sais pas quoi faire, mais je vous demande, s'il vous plaît, d'être présent parce que je veux que la justice comprenne que la décision de la justice, le juge et le procureur ont décidé que c'était un meurtre. Il a exécuté mon fils. On reste sur cette opinion-là. On veut se battre pour que la justice rechange et qu'elle mette meurtrier. Il a exécuté mon fils et je n'accepterai jamais. Je me battrai jusqu'à ma mort pour mon fils et pour ces jeunes-là. Pour tous ces jeunes. Ça veut dire que mon fils... Ça veut dire que nos enfants, avec une caméra filmée, il a tué à bout portant, à quelques centimètres, mon fils Naël Merzouk. Pour eux, merci. Pour eux, c'est une violence sans vouloir donner la mort. Je ne peux pas accepter ça. Pour nous tous, on voit que c'est une exécution. Ils tuent nos jeunes, ils tuent nos enfants, ils tuent nos parents, ils tuent nos familles. Nous ne pouvons plus accepter ça. Nous devons nous battre contre tout ça. S'il vous plaît, soyez présents. Je vous remercie beaucoup. Violence. Justice pour Naël. Justice pour tous ces jeunes. Merci beaucoup. Justice pour Naël. Justice pour tout le monde. Justice pour Naël. Merci, merci pour tout le soutien que vous me donnez.
Justice pour Naël. Justice pour Naël. Justice.
On va passer la parole à Amanda.
Bonjour, moi c'est Amanda, je suis la maman d'un des trois enfants qui a été percuté le 13 avril 2023, rue de Bagnolet, pas très loin d'ici. Safiatou, 17 ans, Salif, 13 ans, et Ilan, 14 ans. Je suis désolée, je peux pas oublier que après les avoir renversés, ils ont choisi de pas les soigner. Ils ont choisi de ne pas les soigner. Ils ont choisi de s'arranger entre eux pendant plus d'une heure et demie en plein Paris. Safiatou, ça a des conséquences en fait dans la vie. Quand tu as 17 ans, tu finis dans le coma pendant 2 mois et tu reviens. Parce qu'en fait, c'est vrai, je suis désolée, avec toute l'humilité, je ne voulais pas parler en vrai. Parce que nos trois enfants ont survécu, ce sont des survivants, avec certes des handicaps lourds. Bravo. Donc, c'est, comment dire, c'est pas la justice institutionnelle, parce que ça, c'est encore une autre violence. Quand je les regarde, ils ne font qu'être plus armés. Vous faites peur, les gars. Vous nous faites peur. Vous faites peur à tous mes enfants, à tous les jeunes. Les violences policières, c'est d'abord des contrôles aux faciès, parce que t'as pas la bonne couleur de peau par rapport. C'est parce que tu portes un voile. C'est parce que tu sors d'une mosquée. C'était le cas de ces trois enfants. Pendant le Ramadan, c'est des contrôles, c'est des attouchements, c'est contre le mur. Écarte les jambes. Je te frappe. T'as pas honte d'être musulman? C'est ça qui est dit à mes enfants, à nos enfants. T'as pas le droit à tel travail. T'as pas le droit à tel salaire. C'est ça qu'on nous met dans la tête. Nos enfants survivent, mais il y en a eu tellement d'autres, le problème, c'est ça. C'est si seulement ça s'arrêtait, ça s'arrête pas. On n'a ni justice, pas de paix. Et eux, ils restent encore plus armés et encore plus armés. Les violences policières, c'est aussi des amendes. Nos jeunes sont endettés. Ils ont 16 ans, ils ont plus de 9000 euros, 80000 euros d'amende. Comment tu veux construire un avenir avec ça dans la tête? Le racisme, ça gangrène toutes nos institutions. Et je suis désolée de vous le dire, mais nous avons tous notre responsabilité là-dedans. Réveillez-vous, regardez-vous. Le 14 mars, je suis désolée, vous ne pouvez pas oublier que c'est la journée internationale contre les violences policières. Nous marchons depuis des années parce que nous ne voulons pas oublier nos morts. Nous savons de quoi ils sont morts. Et tant que nos enfants ne seront pas en sécurité, je suis désolée, nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas.
Bravo.
Je suis devant vous aujourd'hui au nom du collectif Idir Espoir et Solidarité pour porter la voix de la maman d'Idir, dont je vais lire le texte. Mesdames, messieurs, chers militants, chers collectifs, chères familles qui refusent de se taire, aujourd'hui, je ne suis pas physiquement parmi vous à Paris, mais ma voix est ici. Ma douleur est ici, et mon combat est le même que le vôtre. Je prends la parole en tant que mère, la mère d'Idir Médérès. Le 9 septembre 2020, mon fils est mort au mitard de la maison d'arrêt Lyon-Corba, 2 semaines avant sa sortie. On m'a appelé pour m'annoncer que mon fils s'était suicidé. Mais une mère connaît son enfant. Quand j'ai vu le corps de mon fils, j'ai vu des traces, j'ai vu des hématomes, j'ai vu des blessures. Et surtout, j'ai vu le silence qui commençait déjà à se refermer sur lui. Depuis ce jour, je pose des questions, je demande la vérité. Et depuis ce jour, je me heurte trop souvent à un mur. Parce que quand certaines familles demandent la vérité, on les écoute. Mais quand ce sont des familles comme les nôtres, on nous demande d'accepter, de nous taire, de tourner la page. Mais comment tourner la page quand le livre de la vérité n'a même pas été ouvert? Il faut avoir le courage de dire les choses, que le racisme tue, et il se cache dans les institutions. Quand les contrôles se répètent toujours sur les mêmes visages, quand les violences touchent toujours les mêmes quartiers, quand les morts suspectes concernent trop souvent les mêmes enfants. Alors oui, il faut avoir le courage de le dire, il existe un racisme systémique que notre société doit regarder en face. Et la justice doit ouvrir les yeux, elle doit se réveiller. Parce que la justice ne peut pas être rapide pour condamner et silencieuse quand il s'agit de chercher la vérité. Lorsqu'un État protège le silence plutôt que la justice, c'est la confiance du peuple qui meurt. Nos enfants ne sont pas des dossiers, ils ne sont pas des statistiques. Nos enfants avaient des visages, nos enfants avaient des rêves, nos enfants avaient des familles qui les aimaient. Idir était un jeune homme généreux, protecteur, plein de vie. Il aimait profondément sa famille, il aimait faire sourire ses frères et sa sœur, il était toujours prêt à aider les autres. Et aujourd'hui, son absence est une douleur que rien ne pourra effacer. Mais je refuse que sa mémoire soit enterrée sous le silence. C'est pour cela que j'ai créé le collectif Idir Espoir et Solidarité, parce que la douleur peut détruire, mais elle peut aussi devenir une force. Pour défendre la dignité humaine et une force pour soutenir les familles. Et pour dire que personne ne doit perdre sa vie dans l'indifférence. Je veux remercier aujourd'hui tous les collectifs, tous les militants, toutes les associations qui sont ici. Je veux remercier le réseau Entraide, Vérité et Justice, parce que quand les familles sont seules face aux institutions, la douleur peut les écraser. Mais quand elles se rassemblent, elles deviennent une force que plus personne ne peut ignorer. Je veux saluer les familles qui se battent depuis des années, les mères qui refusent d'abandonner, les pères qui continuent à demander la vérité, les frères et les sœurs qui portent la mémoire de leurs proches. Votre courage est immense. On nous demande souvent pourquoi nous continuons, et la réponse est simple. Parce que le silence protège l'injustice. Et parce que la vérité ne sort jamais toute seule. Il faut la chercher, la réclamer, il faut parfois la crier. Nous demandons simplement ce qui devrait être normal dans une démocratie. La vérité, la transparence et la justice. Tant que des familles attendront des réponses, nous continuerons à nous lever. Tant que les injustices existeront, nous continuerons à parler. Et tant que la vérité sera cachée, nous continuerons à nous battre. Parce que la dignité humaine n'a pas de couleur et que la justice ne doit pas avoir deux visages. Et parce qu'aucune mère ne devrait avoir à se battre pour connaître la vérité sur la mort de son enfant. Pour y dire, pour toutes les victimes, pour la vérité et la justice. Merci.
حيايا أطفال الأمة يوم ناس روح حضاتا حيايا أطفال الأمة يوم ناس روح حضاتا حرية الحرية عيزو شعر السلام في الأولى شعر السلام في الأولى استمعوا من القرى بنينا المزامير تهيل فبين الشعوب من أخوة سلام وعطاء تقسينا يا إخوان احشيلوا الكراهية تقسينا يا إخوان احشيلوا الكراهية أمسوا أمسوا سوى القلوب صافية تمتزج بسلام حب الحياة من الإيمان سماح والإنسان حب الحياة من الإيمان سماح والإنسان الحرية الحرية عزون جهادنا في السلام جهادنا في السلام شرق وغرب شمال وجنوب جيتم إلى الأندلس ونحن نحو أورشليم كفى الحروب سالت الدماء اتركوا السلاح يا إخوان زرعوا المحبة اتركوا السلاح يا إخوان زرعوا المحبة اليوم اليوم حن وقت الشعراء طلب الحروب والسلام اتركوا السلاح يا إخوان احشيلوا الكراهية اتركوا السلاح يا إخوان زرعوا المحبة اليوم اليوم حن وقت الشعراء طرب الحروب والسلام
à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 en FM en région parisienne et rfpp.net en streaming. On vient d'écouter donc quelques-unes des prises de parole publiques des parents de victimes de la police lors de la marche parisienne contre le racisme et les violences policières, suivie de Al Marseillaise, une version de la Marseillaise de Henri Agnel et Zeina Mektoub. Et on retrouve tout de suite Brigitte Espruche, coordinatrice du réseau Migreurope, enregistrée hier, mardi 31 mars, nous parler du règlement retour au Parlement européen. Bonjour Brigitte, Brigitte Espuche, tu es coordinatrice du réseau Migreurope et tu nous appelles pour nous parler du règlement européen retour qui est très grave.
Oui, bonjour à toi et bonjour à vous toutes et tous. Alors en effet, je viens un petit peu vous parler de la dernière réforme législative qui a été présentée en tout cas par les institutions européennes. Le 26 mars, le Parlement européen a adopté le mandat de négociation en fait du texte sur le règlement retour. Il y avait eu une proposition de la Commission en mars 2025 pour réformer réformer en effet la directive retour de 2008 qui était le cadre en fait hein, de l'expulsion des personnes sans droit au séjour au sein de l'Union européenne. Donc la Commission elle avait par deux fois tenté cette réforme de la directive retour. Il faut savoir qu'à l'époque elle avait été qualifiée par la société civile de directive de la honte. Puisqu'elle banalisait l'enfermement des personnes étrangères. Donc la Commission elle présente un texte en mars 2025 et puis le Conseil de l'Union européenne il adopte une position encore plus restrictive que la proposition initiale en décembre 2025 et donc là la plénière du Parlement européen devait donner son avis, devait confirmer ou pas le mandat de négociation. Et en fait, au dernier moment, c'est un compromis alternatif qui a été présenté en guise de texte. Et c'est un texte qui résulte d'une alliance entre la droite et l'extrême droite qui avait négocié en coulisses depuis plusieurs semaines. Et donc, ce compromis alternatif qui a été présenté à la commission parlementaire Libé, c'est la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, eh bien effectivement, il marque une consolidation des violations des droits des personnes étrangères, puisqu'avec ce texte, avec cette nouvelle réforme législative, on franchit véritablement de nombreuses lignes rouges hein, en matière de violation des droits des personnes.
Ouais, c'était presque un coup d'État, j'ai l'impression.
Alors, pas vraiment un coup d'État, mais en tout cas un coup surprise, ouais. Puisque effectivement c'était de la négociation en catimini. Mais voilà, ce compromis, en tout cas, il a été présenté et il a été adopté par la Commission Libé. Donc c'est lui qui a été confirmé du coup là le 26 mars en plénière du Parlement européen.
Ouais.
Et donc, la prochaine phase, c'est le trilogue. Il va y avoir un espace de négociation entre les trois institutions de l'Union européenne, la Commission, le Parlement et le Conseil. Et on verra si ce texte est définitivement adopté ou pas.
Ouais. Et donc, qu'est-ce qui caractérise un petit peu parce qu'il est. Par quelques bouts qu'on prenne, il est finalement absolument terrible, ce texte.
Bah oui, alors donc ce texte, c'est un système commun en matière d'expulsion des personnes dépourvues de droit de séjour au sein de l'Union européenne. Et donc, effectivement, il va produire de nouvelles violences envers les personnes exilées, une criminalisation renforcée, un enfermement généralisé. Il produit aussi de l'externalisation, tout azimut, et surtout des risques hein, pour les personnes étrangères. Donc, il va vraiment dans le sillage hein, des nombreuses réformes attentatoires aux droits qui ont été adoptées dernièrement hein, ouais. Au sein de l'Union européenne. Par exemple, le pacte européen sur l'immigration et l'asile qui a été adopté en 2024, mais qui va être mis en œuvre là en juin 2026, ou encore la redéfinition. Des pays dits sûrs en février 2026.
Ouais.
Donc il est vraiment dans la continuité de ces réformes attentatoires aux droits. Pourquoi ? Parce que le paysage politique européen et parfois national s'y prête. C'est-à-dire on est vraiment dans un énième jalon en fait de la guerre aux migrants, dans une nouvelle destruction des droits individuels et puis un démantèlement du droit de l'Union. Parce que là, il s'agit vraiment d'une réforme en profondeur où on va très très loin dans la violation des droits. Par exemple, ce texte, il est notable par une vraie criminalisation renforcée envers les personnes exilées, et notamment par une vraie obsession sécuritaire. C'est de l'hostilité, c'est de la défiance envers les personnes dépourvues de droit au séjour. Et on ne cesse de répéter dans ce texte qu'il faut garantir l'ordre public, la sécurité nationale au sein de l'Union, et que toutes les personnes qui présenteraient un risque sécuritaire se voient appliquer un droit dérogatoire aux règles générales déjà très très strictes dans ce règlement retour. Et d'ailleurs, les motifs pour être perçus comme un risque sécuritaire, ils sont étendus, les motifs. Et donc, ça ne se limite plus à des crimes graves, par exemple le terrorisme, mais c'est étendu à des infractions pénales qui sont passibles de 2 ans de prison, ou à toute menace pour la sécurité en vertu du droit national. Et donc, on sait que chaque pays peut définir ça, quoi. Donc voilà, il y a une vraie obsession sécuritaire. Et pour ces personnes-là, il y a des interdictions d'entrée plus longues, il y a des périodes de détention plus longues, il y a des recours à des centres spécialisés. Donc il y a un droit dérogatoire pour ces personnes, et donc ça criminalise encore davantage les personnes. Le but de ce texte, évidemment, c'est d'expulser plus facilement. C'est vraiment de faciliter, d'accélérer les expulsions, et pour pouvoir expulser, il faut détenir. Et donc là, dans ce texte du règlement retour, il y a vraiment une détention qui est systématisée. D'abord, il y a une extension des motifs de détention. On peut être enfermé pour risque de fuite, pour entrave à la procédure de renvoi, ou encore une fois pour si on constitue un risque pour la sécurité. Cette détention administrative, elle va s'appliquer à toutes les catégories d'étrangers, toutes les catégories de personnes étrangères. Donc, y compris des mineurs, qu'ils soient seuls ou en famille, à des demandeurs et demandeuses d'asile, et à des personnes malades, donc à tout le monde. La durée d'enfermement maximale, elle passe de 18 à 24 mois. Donc, ouais. On rappelle que ces personnes, elles sont privées de liberté parce qu'elles ne détiennent pas les documents pour entrer ou séjourner dans un pays membre de l'Union européenne. Et déjà, la directive retour, elle avait porté la durée maximale à 18 mois. Or, on sait très bien soit on expulse dans les 12 à 15 premiers jours, soit il est extrêmement difficile de pouvoir renvoyer quelqu'un. Et donc là, de passer de 18 à 24 mois, ça ne va pas permettre jamais de renvoyer davantage. Et donc, c'est vraiment une mesure punitive, en vérité.
Il y a un petit truc que je n'ai pas très bien compris, c'est que de 18 à 24 mois, mais la détention peut être cumulable d'un état à l'autre.
Oui, en fait, il est écrit dans le texte que la durée d'enfermement, elle est de 24 mois maximale dans un état membre donné.
Ouais.
Ce qui veut donc dire qu'elle est cumulable d'un état à l'autre, puisque c'est 24 mois dans un état membre donné.
Ok, donc quelqu'un qui fait 24 mois, on dira en France, sera renvoyé dans un autre état, pourra refaire 24 mois dans l'autre état.
En tout cas, ce texte ouvre la possibilité, c'est-à-dire c'est en théorie, c'est possible. Voilà. En théorie, le texte, c'est ça qu'il implique, en tout cas. Et alors, au-delà de ça, cette détention, elle est prolongeable en cas de risque sécuritaire, encore une fois.
Ouais.
Et le texte ne précise pas combien de temps. Donc, on peut envisager que c'est prolongeable indéfiniment en cas de risque sécuritaire. Et dans ce cas-là, il est possible de recourir à des établissements pénitentiaires. En théorie dans une section réservée, mais s'il n'y en a pas, avec des prisonniers de droit commun. On rappelle qu'il s'agit bien d'une détention administrative, et pourtant on se donne la possibilité de recourir à des établissements pénitentiaires. Et puis, évidemment, le but de ce texte est encore une fois d'expulser. Donc, le but de ce texte, c'est de pouvoir expulser plus facilement.
Ouais.
La première des choses, c'est qu'on doit coopérer. Il y a une obligation de coopération au renvoi forcé, sous peine de sanctions financières ou pénales.
Ouais.
Et donc, pénal, ça peut vouloir dire en prison.
Ouais.
Il y a une possibilité de fouille avec une possibilité de saisie des effets personnels, dont le téléphone,
ouais.
Ce qui peut évidemment porter atteinte aux droits hein, des personnes demandeuses d'asile, au respect de la vie privée, à la protection des données personnelles. Voilà. Et pour pouvoir accélérer les renvois forcés, donc les expulsions, il y a une reconnaissance et une exécution mutuelle des décisions de renvoi et des ordres européens d'expulsion qui sont notifiés. C'est-à-dire que si un pays A a émis un ordre d'expulsion, mais que la personne elle va dans un pays B, alors le pays B pourra exécuter l'ordre d'expulsion émis par le pays A.
Okay.
Et ce, sans réexaminer potentiellement la situation individuelle de la personne.
Et donc ça contrevient à un certain nombre de...
Ah ben c'est contraire au principe de non-refoulement déjà.
Ouais.
Mais effectivement, à partir du moment où il n'y a pas d'examen de la situation individuelle, alors que la situation de la personne elle peut avoir changé d'un pays à l'autre, etc. Et par ailleurs, pour pouvoir accélérer ces renvois forcés, il est possible de renvoyer une personne sans attendre la décision définitive de renvoi, parce qu'il n'y a plus il n'y a plus de recours suspensif automatique.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que jusqu'ici, si tu fais un recours, si tu fais un recours en annulation de la décision d'expulsion, ton recours il va être examiné par un juge, et jusqu'à ce qu'il soit examiné par le juge, le recours est suspensif, c'est-à-dire qu'on ne peut, tu es protégé, on ne peut pas te renvoyer. Eh bien là, le texte dit qu'il n'y a plus de caractère automatique dû au recours suspensif pour un recours en annulation de la décision de renvoi. Donc ça veut dire qu'on peut être renvoyé sans une décision définitive tant que le recours est pendant, tant qu'il n'a pas été examiné par un juge. Donc c'est absolument terrible.
Tout à l'heure,
ça porte atteinte au droit au recours effectif.
Ouais, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais donc de personnes qui étaient condamnées d'une peine de supérieure ou égale à 2 ans. Je suppose que c'est dans leur pays.
Oui.
Et si on prend par exemple quelqu'un qui est gay et qui vient du Sénégal ou d'un pays qui criminalise l'homosexualité. À ce moment-là, il peut être condamné à une peine supérieure à 2 ans et donc ne pas pouvoir venir. C'est une question.
En tout cas, les motifs du risque sécuritaire, effectivement, on nous dit qu'ils sont étendus. Tu sais, il n'y a pas beaucoup plus de précision que ça dans ce texte.
Ouais.
On nous envoie des informations sans beaucoup de précision. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'études d'impact ni de consultations qui ont précédé ce texte. Donc, on nous dit juste que les motifs du risque sécuritaire ne se limitent plus aux crimes graves, type terrorisme ou criminalité transfrontalière, mais pour des infractions pénales qui sont passibles d'au moins 2 ans de prison ou toute menace pour la sécurité en vertu du droit national. Donc, en vertu du droit national,
ouais, ouais.
Effectivement. Donc oui, tu as raison. Après, j'imagine que dans ce cas-là, il y aurait quand même une demande d'asile qui est déposée, etc. Mais potentiellement, toute personne effectivement qui a été condamnée à, ou en tout cas qui a eu une peine de 2 ans de prison, elle peut effectivement constituer un risque pour la sécurité. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Au-delà d'accélérer les renvois forcés matériellement, on va pouvoir les accélérer aussi parce qu'on va élargir la définition du pays de retour.
Ouais.
Donc jusqu'à maintenant, on pouvait renvoyer quelqu'un soit dans son pays d'origine, soit dans un pays de transit, soit dans un pays dans lequel son potentiel visa ou son passeport lui donne la possibilité d'entrer,
ouais.
Soit un pays dans lequel elle a donné son consentement pour aller. Alors que là, il est possible d'expulser des personnes. Donc, le texte là du règlement retour donne la possibilité d'expulser dans des pays tiers, dans des pays hors Europe, où ils ne sont jamais allés. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays de nationalité, ce n'est pas un pays de séjour, ce n'est pas un pays de transit. C'est un pays sans lien de connexion et sans le consentement de la personne qui est renvoyée. Alors ça marche pour tout le monde, sauf pour les mineurs isolés. Donc, il y a une exception notable pour les mineurs isolés. Mais en tout cas, tu pourras dorénavant, si ce règlement retour est finalement adopté, définitivement adopté, tu pourras expulser les personnes dans des pays tiers où elles ne sont jamais allées. Et pour ça, il faudra signer un accord formel ou informel, c'est-à-dire un État membre ou l'Union européenne devra avoir conclu un accord ou un arrangement avec un État hors UE avec des contreparties, hein, j'imagine, mais à charge pour ces pays qui ont accepté de recevoir, tu vois pas mes guillemets, il y en a beaucoup, de recevoir la personne expulsée, c'est à eux de les gérer. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il y aura une mise en détention, une expulsion à nouveau. Donc, on peut expulser si on signe un accord et on a juste à en informer la Commission européenne. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle de l'expulsion a priori ou a posteriori et il n'y a pas de clause de suspension en cas de violation des droits. On a juste à informer la Commission européenne.
D'accord.
Et donc, d'ailleurs, étant donné que ce règlement retour ouvre la brèche, ouvre cette possibilité, il y a déjà, début mars, 5 pays de l'Union européenne qui se sont réunis pour parler de la possibilité de créer une détention externalisée, des camps hors Europe. Mais pour ça, ils doivent donc conclure des accords ou des arrangements avec des pays tiers. Et là, depuis le début mars, ils réfléchissent sérieusement à la question. Et enfin, pour aller encore un peu plus loin, on peut très bien renvoyer quelqu'un sans qu'on lui ait notifié un pays de renvoi. Si, par exemple, il peut pas être déterminé. Ou désigner plusieurs pays de renvoi. Donc, imagine comme ça va être aisé hein, pour contester ces décisions, puisque tu sais que quand on conteste une décision d'expulsion, on conteste d'une part la décision de renvoi en tant que telle et le pays de renvoi. Et donc là, le pays de renvoi, ça peut être aucun ou plusieurs. Tu sais qu'il y a des interdictions d'entrée également en Europe. Celle-ci, elle peut être prononcée sans qu'il y ait eu une décision de renvoi ou même après que la personne a été expulsée du pays. Et sur ces interdictions d'entrée, c'est-à-dire en vérité, ces interdictions de retour hein, sur le territoire européen, dans le texte de la directive retour, elle avait une durée maximale qui était de 5 ans. Les différentes propositions qui ont été mises sur la table ont augmenté cette durée maximale. Donc la Commission, elle l'a portée à 10 ans, le Conseil à 20 ans. Et là, ce dernier texte ne précise pas la durée maximale, mais précise par contre que ça pourrait être indéfini pour les personnes qui présentent un risque de sécurité, ce qui veut donc dire un bannissement définitif du territoire européen. Donc voilà, donc ce règlement retour, c'est véritablement ça, c'est la consolidation de la destruction des droits des personnes étrangères, mais également du droit de l'Union européenne. Et c'est dans le sillage des dernières réformes législatives européennes, mais c'est aussi dans celles à venir qui sont la renégociation de la directive facilitation qui criminalise les personnes migrantes et leur soutien, et puis le nouveau mandat de l'agence européenne Frontex qui est attendu pour 2026.
Oui, d'ailleurs, à propos de Frontex, ça on en reparlera peut-être tout à l'heure, hein, mais donc il y a l'ancien directeur qui s'est fait virer de Frontex et qui est maintenant député européen Front National.
Rassemblement national, absolument, et qui se voit là accusé d'une plainte de la LDH et de Utopia 56 pour crimes contre l'humanité.
Ouais. Et donc, quand on renvoie des gens dans un pays tiers, c'est un pays qui est décrété comme sûr.
Alors, pas forcément. Hein. C'est ça, le truc, c'est qu'on n'a pas besoin Avec ce dernier texte, en tout cas, il n'est pas besoin de décréter pays sûr le pays de renvoi, à moins que ce soit pour une personne dont la demande d'asile a été déclarée irrecevable.
Mmh.
Les pays sûrs, c'est encore autre chose. Donc là, ce que je signalais, c'est qu'on peut renvoyer une personne à condition d'avoir conclu un accord avec cet État tiers. Mais au-delà de ça, il n'est pas besoin de déclarer sûr le pays tiers de renvoi,
ouais.
Encore une fois, sauf pour les demandeurs d'asile dont la demande a été jugée irrecevable. Et ça, c'est pour les pays, pour les ressortissants de pays tiers dits sûrs.
Ouais.
Donc, il y a effectivement deux textes qui ont été adoptés par le Parlement européen le 10 février. Le premier texte, ça a établi une liste européenne de pays d'origine sûrs. Ça permet d'examiner une demande d'asile en procédure accélérée.
Ouais.
Alors que le deuxième texte, il élargit le concept de pays tiers sûrs et ça permet de déclarer irrecevable, sans ouais. examen au fond, une demande d'asile pour les personnes qui seraient passées par un pays tiers sûr. Le motif, c'est que la personne, elle aurait pu y demander l'asile et donc en vue de la renvoyer vers ce pays sûr.
Ok, parce que là, je vois que dans certains des pays tiers sûrs, pour l'Union européenne en tout cas, on voit des pays comme le Bangladesh, la Tunisie, le Maroc, la Colombie, qui sont des pays dont on reçoit des réfugiés.
Alors absolument, c'est la toute première liste hein, européenne et commune et harmonisée de pays d'origine sûre,
ouais.
Qui comprend effectivement les 7 pays dont tu as parlé. Une liste effectivement ubuesque hein, au regard des exactions qui sont dénoncées à l'encontre des personnes exilées dans ces pays. Par ailleurs, tous les États candidats à l'adhésion de l'Union européenne sont automatiquement considérés comme sûrs, à l'exception, là pour l'instant, de l'Ukraine. Donc oui, cette liste, elle laisse un peu pantois hein, quand on la liste comme ça.
Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur la façon dont ce texte a été voté? Parce qu'apparemment, c'était, quand je parlais tout à l'heure de quasi coup d'État, même si ce n'est pas vraiment un coup d'État, enfin, on ne peut pas parler de ça comme coup d'État, mais il y avait un premier texte qui était déjà très dur, qui avait été préparé, je crois, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, par la Commission européenne. Et c'est un autre texte, c'est un texte alternatif beaucoup plus dur qui a été voté et avec des problèmes, notamment au niveau des débats et des discussions.
Bah oui, c'est ce que j'essayais de dire au début, c'est que il y a d'abord une proposition initiale qui a été posée sur la table en mars 2025 par la Commission européenne.
Ouais.
Puis il y a eu le Conseil qui a adopté une position plus restrictive en décembre 2025.
Ouais.
Et là, il y avait un texte qui avait été négocié et qui allait être présenté en commission Libé le 9 mars. Et en fait, c'est un texte alternatif qui a été posé sur la table.
Ouais.
Ce dernier texte, donc, qui résulte d'une alliance droite-extrême droite et qui est encore plus restrictif que les propositions précédentes.
Mmh.
Donc oui, il y a un texte par surprise qui a été mis sur la table et qui résulte d'un compromis alternatif. Et donc, on peut parler en tout cas d'un hijacking
ouais.
du vote en Libé, quoi.
Mm-hmm.
Par la droite et par l'extrême droite, qui négociait en coulisses depuis des semaines, sans doute.
Voilà, c'était donc un petit peu pour ça que...
Bon, mais il faut savoir quand même que le texte précédent, il était déjà bien répressif. Hein. Là, on ajoute encore de la violence à la violence, mais elle préexistait. Hein.
Et ce texte, il s'appliquera en France quand ?
En fait, un règlement,
ouais.
Contrairement à une directive, c'est pas il n'y a pas de transposition nécessaire dans le droit national,
ouais.
d'application directe. Donc, dès qu'il sera définitivement adopté, même si les États membres ont une grande marge de manœuvre, tel que le texte est rédigé, il s'appliquera immédiatement, dès qu'il entrera en vigueur.
Ok. Et on craignait que ce texte s'applique aux gens qui habitent déjà dans un territoire européen, Apparemment, pas encore.
Comment ça?
Bah, c'est-à-dire que les contrôles, est-ce que les gens qui sont déjà ici en situation irrégulière sont visés par ce texte ou pas?
Eh ben, en fait, là, c'est un système en matière d'expulsion des ressortissants de pays tiers sans droit au séjour au sein de l'Union.
Ouais.
Donc, c'est pour toutes les personnes qui sont dites en situation irrégulière au sein de l'Union européenne. Après, si tu fais mention, un temps, il y a eu une disposition dans ce texte sur des mesures visant à la détection et à la surveillance des personnes sans droit de séjour dans l'Union. Mais en vérité, ces dispositions ont été retirées de la dernière version du texte, c'est-à-dire de ce compromis alternatif qui a été présenté le 9 mars.
Ouais.
Donc, toutes les mesures qui visaient à la traque des personnes étrangères dans des lieux quotidiens de la personne exilée, elles ont disparu. Mais par contre, elles pourraient être réintroduites dans d'autres textes. Et par exemple, pendant le trilogue, une des institutions, par exemple le Conseil, pourrait décider de réintroduire des méthodes d'enquête qui permettent la traque. Hein. En tout cas, pour l'instant, cette disposition a disparu du texte. Et c'est les personnes qui seront interpellées en situation dite irrégulière sur le territoire d'un État membre qui seront concernées par ce règlement retour.
Ok. Donc, en gros, ça fait quelque chose qui n'est pas sans rappeler ICE aux États-Unis.
Je pense qu'on n'a pas grand-chose à envier à ICE aux États-Unis, dans le sens où l'Europe, ça fait quand même 30 ans qu'elle mène des politiques ultra-sécuritaires, ultra-violentes. La violence, elle a quand même été transformée en stratégie de dissuasion pour les personnes exilées. Donc, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment comparable, mais en tout cas, moi, il me semble qu'on n'a rien à envier à cette police ultra-répressive qui est ICE au sein de l'Union européenne. Hein. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Il faudrait pouvoir les lister dans une autre émission, sans doute. Mais on est déjà quand même bien avancé dans le domaine de l'ultra-répression. Hein.
Et donc ça, c'est finalement, c'est vraiment les idées de la droite la plus dure. Donc ça, je le disais tout à l'heure, hein, on en a dit un tout petit mot, un des dirigeants de Frontex, qui est Fabrice Lethierry, qui est maintenant député européen Front National, et on a ouvert une enquête contre lui suite à une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et crimes de torture.
Oui, alors ça c'est effectivement une plainte qui a été, une requête en tout cas qui a été déposée par Utopia 56, membre de Migreurope, mais aussi par la Ligue des droits de l'homme pour complicité de crimes contre l'humanité et torture. Et donc, effectivement, cette accusation, elle porte sur des refoulements, des pushbacks de migrants en mer, une coopération avec les gardes-côtes libyens et grecs et une passible dissimulation d'abus. Cette plainte, en tout cas, elle nous semble symboliquement très importante. Mais à Migreurope, on répète que quel que soit le directeur, quel que soit le nom du directeur de l'agence européenne Frontex, c'est bien son mandat qui est incompatible avec le respect des droits. Et donc, son directeur, Lethierry, évincé, eh bien, elle continue de bafouer les droits des personnes exilées parce que il a bien été démontré depuis toutes ces années que la politique de contrôle migratoire de l'Union européenne, elle ne peut pas être respectueuse des droits. Et donc, le fait qu'à chaque révision de mandat, 2010, 2011, 2016, 2019 et donc là 2026, on a encore parlé de renforcer les prérogatives et les moyens humains, financiers, technologiques de l'agence Frontex. Et on sait qu'à chaque fois, ça a signifié davantage de violations des droits et davantage de violence et de drames pour les personnes exilées. Donc cette enquête, symboliquement, elle est très importante dans la mise en cause du directeur de Frontex sur les violences et les violations des droits humains. Mais nous, on voudrait que ce soit Frontex qui soit mise sur le banc des accusés en tant qu'entité morale, en tant qu'agence européenne qui doivent rendre des comptes. Et on continue de penser qu'il ne s'agit pas de changer le directeur ou de changer le nom du directeur, mais c'est l'agence en elle-même qu'il faut supprimer.
Merci beaucoup Brigitte. Peut-être tu as un petit mot de conclusion à dire, parce que d'après tout ce que tu dis, en fait, ça va faire certainement beaucoup plus de morts aux frontières, mais ça n'empêchera pas les gens de circuler.
Non. Alors, effectivement, les personnes exilées, quand on leur nie le droit à la mobilité, on rappelle que la migration est un droit. Hein. Mm-hmm. Et donc, quand elles se voient nier ce droit à la mobilité, eh bien, elles s'en saisissent et elles transgressent les politiques migratoires ultra-sécuritaires. Quand elles doivent se déplacer, elles se déplacent. Pour conclure, je voudrais simplement dire que la société civile s'est beaucoup mobilisée autour des dernières réformes législatives européennes. On continue de le faire. Il y a encore une étape qui est celle du trilogue. Il y a encore des mobilisations qui sont en place. On espère que durant le trilogue, il y a certaines dispositions absolument attentatoires aux droits qui seront retoquées. Et à défaut, si ce texte est adopté, eh bien, on se tournera vers les juridictions européennes pour faire respecter le droit de l'Union et les droits des personnes.
Ouais.
Donc, on ne lâche pas l'affaire.
Non, bah on ne lâche pas l'affaire et puis on en reparlera certainement très bientôt quand on verra ce que ça dit, puisque là, il vient tout de suite ce que ça dit. L'application, puisque là, il vient d'être adopté, mais...
Le mandat de négociation a été confirmé, donc le texte peut encore changer. Ah, là, oui. C'est le trilogue qui s'ouvre, donc c'est les phases de négociation. À voir le texte définitif qui sera adopté.
Oui. Eh ben, merci beaucoup Brigitte, et puis j'espère qu'on se revoit très bientôt en live dans le studio et pas par téléphone.
Absolument. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. À très bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, sur 106.3 en FM en région parisienne et rfpp.net en streaming. On vient d'écouter Brigitte Espuche, coordinatrice du réseau Migre Europe, enregistrée hier mardi 31 mars, parler de l'adoption jeudi 26 mars du règlement Retour au Parlement européen. Notre émission tire maintenant à sa fin. Alors quelques rendez-vous avant de retrouver les oreilles loin du front. Samedi 24 avril à 14h à la mairie de Saint-Denis, grand rassemblement contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Et ce même jour, à la même heure, hein, donc toujours samedi 4 avril à 14h, mais à Montreuil, à la parole errante. C'est la grande fête de la cantine des Pyrénées. Je vous dis maintenant au revoir. Merci à la Marche des Solidarités et aux familles qui ont pris la parole. Merci à Brigitte Espuche de Migre Europe. Et cette émission sera rediffusée lundi matin à 7h30 et très bientôt disponible en replay sur le site du RESF, réseau-resf.fr. Au revoir et tout de suite, les oreilles.
RESF, Réseau Éducation sans frontières, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.